à tous. Comme un joli mois de mai 1968-2018, ce que mai 68 a fait à la pensée, on en parlera avec le philosophe révolutionnaire Alain Badiou, notre invité de midi 55. Il vient de signer un bref et vif essai « On a raison de se révolter » chez Fayard. Mais d'abord, on a souvent dit que mai 68 a été une prise de parole, les murs ont la parole, etc. C'est vrai, on a pris la parole comme on a pris la Bastille. Extrait de mai 68, le chaos peut être un chantier de Leslie Kaplan, une conférence ininterrompue, ou plutôt interrompue. On en reparlera dans la première partie de l'émission. Leslie Kaplan est notre première invitée, accompagnée de Nathalie Quintane, pour son livre « Un œil en moins », où l'esprit de révolte souffle dans ses pages, paru chez POL. Elles sont nos deux invitées à retrouver maintenant sur France Culture jusqu'à midi et demi.
La grande table. Olivia Gesbert.
Mais d'abord, midi 3 sur France Culture. C'est le journal de Cannes d'Antoine Guillot. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Permis, interdit, hier le tribunal de grande instance de Paris a tranché en faveur de Terry Gilliam et du Festival de Cannes dans le conflit qu'il oppose au producteur Paolo Branco. Son Don Quichotte sera bien diffusé en clôture de la 71e édition du festival le 19 mai. Une bonne nouvelle ?
Oui, on attendait le jugement pour hier, c'était à 14h30, et puis il ne tombait pas. Et puis, pendant la cérémonie d'ouverture de la sélection Un Certain Regard, c'était à 16h, on voyait Thierry Frémaux très occupé à regarder son téléphone. Explication.
Je voudrais vous dire que c'est pour ça que je consultais mon téléphone.
Okay.
Le Festival de Cannes a gagné le procès qui lui a été fait, et Don Quichotte de la Mancha sera montré en clôture du festival.
Réaction donc de Thierry Frémaux hier dans la salle. Antoine ?
Entendu, ça a réjoui tout le monde. Le tribunal a jugé qu'en fait, interdire le film de projection, c'était une sorte d'entorse à la liberté d'expression, mais que ça ne préjugeait en rien du litige qui occupe actuellement les droits, qui a les droits du film. Donc le producteur qui a attaqué Paolo Branco a tenu ensuite une conférence de presse. Il a obtenu que soit diffusé avant le film un communiqué qui nous dit, voilà, rien n'est tranché pour l'instant, vous pouvez voir le film, mais lui-même s'est attaqué au festival et à Thierry Frémaux et à Pierre Lescure, le président du festival. Il a dit ce que Gilles Jacob a fait du Festival de Cannes, Thierry Frémaux est en train de le détruire. Il a qualifié Pierre Lescure de marionnette. Enfin, il y a une certaine ambiance dans le marché
tendu,
du festival.
Tendu, Antoine Guillot, à la une de votre journal de Cannes, également permis, interdit, autorisé, censuré. Un film kényan, Rafiki, interdit dans son pays pour promotion de l'homosexualité.
Et pourtant, il n'y avait jamais eu de film kényan présenté à Cannes. C'est donc un événement, normalement, pour ce pays. Rafiki de Wanuri Kayu, sauf que, voilà, il aborde un sujet tout à fait tabou, une histoire d'amour entre deux femmes, filmée de manière très prude. Il n'y a rien, a priori, qui pourrait choquer, sauf que l'homosexualité est absolument tabou dans ce pays. C'est ce que raconte le film. Et le ministre de la Culture kényan est lui-même un farouche opposant à toute idée, je ne parle même pas de mariage pour tous, mais de possibilités de relations entre deux personnes de même sexe. Donc le film est complètement interdit là-bas. Alors vous direz, ça ne peut arriver qu'au Kenya. En France, on n'a pas d'interdiction, il n'y a plus de censure. Il y a une commission de classification des films. Et il y a un autre film présenté à Un Certain Regard, signé par un réalisateur français, Antoine Desrosières, qui s'appelle À genoux les gars. Un film qui parle de la différence de conception sur ce qu'est le consentement sexuel entre de jeunes garçons et de jeunes filles. C'est donc un film très utile pour les adolescents, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est le consentement. Et bien sauf que le film s'est retrouvé interdit aux moins de 16 ans lorsqu'il est passé devant la commission de classification des œuvres cinématographiques. C'était le 29 mars et je vous donne la motivation de cette décision parce qu'elle est assez savoureuse. Interdiction aux mineurs de moins de 16 ans pour ce film qui traite sur le mode humoristique des relations, en particulier sexuelles, entre jeunes gens présentés comme mineurs. Jusque-là, tout va bien. L'accumulation de stéréotypes autant que la banalisation de comportements problématiques ne sont pas toutefois adaptés à un public jeune ou préadolescent. sont susceptibles d'être heurtés et de se méprendre sur ces situations. Donc il ne faut surtout pas que les gens à qui s'adresse ce film le voient. Bon, on en parlera avec Antoine Desrosières et ses comédiennes, ça sera samedi dans Plan Large.
Dans Plan Large, votre émission, Antoine Guillaume, ce n'est pas toute la sélection Un Certain Regard qui est interdite au moins de 16 ans. C'est ce film, en tout cas, pour l'instant.
Non, oui, c'est ce film, parce que vous savez, les mineurs sont des petites choses fragiles.
Donc vous avez pu le voir, ou vous allez le voir, parce que vous avez un peu plus de 16 ans. On vous retrouve donc samedi pour votre émission Plan Large, et demain pour un autre journal de Cannes, qui se réécoute et se podcast aussi sur franceculture.fr. Merci Antoine Guillaume. Ce que Mai 68 a fait à la littérature, écrivaine, prof de lettres, auteur précédemment de Ultra Poustre, Proust, Nathalie Quintane publie aujourd'hui Un œil en moins chez POL, une expérience de nuit debout, une réflexion sur l'esprit de contestation. Avec nous en duplex, bonjour Nathalie Quintane.
Bonjour.
Quand Leslie Kaplan revient 50 ans en arrière avec Mai 68, le chaos peut être un chantier. Conférence interrompue aussi chez POL, 30 ans après l'excès l'usine, récit d'une expérience, celle de l'étudiante militante maoïste partie travailler à l'usine. Première pierre posée dans un jardin littéraire qu'elle continue à bêcher aujourd'hui et depuis toutes ces années avec ce petit dernier. Donc Mai 68, le chaos peut être un chantier. Bonjour Leslie Kaplan.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être avec nous. Comment et pourquoi surtout transformer une expérience intime, personnelle, Mai 68 pour vous, Leslie Kaplan, et Place de la République, Nuit debout pour vous, Nathalie Quintane, en entreprise littéraire, Leslie Kaplan.
Mais, il me semble que quand on vit quelque chose qui vous a bouleversé, qui vous a même complètement renversé, on peut avoir le désir de le transmettre. De le transmettre, bon, avec les moyens qu'on a soi-même, bon, dans mon cas, avec des mots. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie que ça passe et ailleurs, en se disant que, évidemment, ça va se développer autrement, trouver un écho, une résonance, etc.
Il y a ce travail sur le langage que vous faites et qui peut nous interroger d'ailleurs sur ce que Mai 68 fait à la langue ou a fait au langage, parce que on parle aujourd'hui beaucoup de punchline dans le langage journalistique, c'est-à-dire ce sens de la formule courte et efficace dont on se dit qu'il est peut-être né aussi des slogans de Mai 68. Pourquoi aujourd'hui, pour vous, Leslie Kaplan, le chaos peut être un chantier aussi dans la langue?
Ah, mais ça... Bon, j'aurais du mal à parler de ma propre écriture, mais c'est sûr que c'est, voilà, ça vient comme ça, et vous avez raison, peut-être ça n'est pas sans rapport avec des slogans, cette façon de condenser. C'est vrai que j'aime beaucoup la condensation. Il me semble que ça porte et ça peut toucher particulièrement.
Pour vous aussi, Nathalie Quintane, la contestation passe par le langage?
Bah, en fait, puisque le livre parle du mouvement du printemps 2016, vu depuis la province, donc en fait par rapport à Mai 68, ça peut paraître tout petit, voire ridicule. Excusez-moi, mais je m'entends en écho dans le micro, donc c'est très désagréable.
Oui, vous êtes avec
si
nous
en
duplex.
Se régler. Ouais, je suis en duplex.
Ou peut-être enlever une oreille de votre casque.
Ouais, puisque j'habite dans une toute petite ville, et ce qui a fait démarrer l'écriture du livre, c'est que c'est presque ce ridicule de la situation. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 50 ans. On est loin de Paris, et ce qui s'est passé, c'est que ça a produit beaucoup plus que d'habitude en ce qui me concerne, puisque je publie plutôt des livres courts, une espèce d'enthousiasme et de prise de parole beaucoup plus prolixe.
Et vous dites
et
que
ça, c'est né du contexte, ça. C'est né d'une espèce de phase très enthousiaste qui a commencé, on va dire, en mars 2016.
Et vous faites tout un travail, là encore, Nathalie Quintane, comme Leslie Kaplan, sur le langage, sur cette manière très brute de raconter ou de décrire les choses. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour vous, Nathalie Quintane, que malgré Mai 68, il n'est quand même pas si simple d'écrire crève-salope, par exemple, puisque vous le prenez dans cet ouvrage. La Révolution, est-ce qu'elle ne passe pas forcément, au fond, par une radicalité du langage ?
Bah, du fait de cette position très mineure par rapport au grand mouvement révolutionnaire, je ne parle même pas seulement de mai 68, alors si on pense encore à tout ce qui s'est passé au 19e, au Front Populaire, c'est encore bon. On se sent évidemment tout petit, donc on se sent, comment dire, dans l'obligation d'une certaine retenue, d'une certaine réserve, il faut faire attention. Et donc le livre raconte ça aussi, raconte une forme d'audace qu'on prend petit à petit, doucement, parce qu'on a peur de ne pas être exact, de ne pas être précis. C'est très important, évidemment, pour les gens qui écrivent et pour moi, que de ne pas aller au-delà tout de suite de ce qu'on ressent. Et donc, le moment, ce moment où on arrive à un moment à écrire Crève salope, il en faut des précautions avant pour parvenir jusque-là. C'est un sommet. Alors que ça me semble, ou ça, du fait de ma génération sans doute, ça me semblait quelque chose de plutôt évident en 68. Le langage se libérait, quoi, tout de suite. Il y avait une sorte d'émancipation qui avait été préparée dans les années 60, dans les années qui ont précédé. Et là, 2018, on revient tellement de loin et la période de justement d'émancipation a tellement été fort close et clôturée depuis longtemps que tout est à refaire. J'ai toujours eu le sentiment que tout était à reprendre et à refaire. C'est ça aussi que raconte ce livre.
Leslie Kaplan, ça fait 50 ans que vous aussi vous faites et refaites, reprenez cette matière que vous aviez déjà abordée, saisie en 68 et dans les années qui suivent avec votre premier livre paru au début des années 80, L'excès, l'usine. Vous le dites aussi, mai 68 a été un moment de rupture, au silence mortifère, a suivi cette parole vive, cette prise de parole, cette parole qui a fait irruption. Ces mots aujourd'hui que vous employez pour raconter cet événement, raconter ce moment, est-ce que vous les avez à nouveau sous contrôle? Est-ce que vous maîtrisez ce langage par rapport aux mots que vous avez employés ou que vous auriez employés il y a 50 ans?
Bah, déjà, je voudrais dire que je pense que, d'une certaine façon, ce qu'a dit Nathalie Quintin, là, tout de suite, je crois que ça s'appliquait aussi, d'une certaine façon, à mai 68, le côté petit aussi. Hein, moi, j'ai vécu mai 68 dans une usine occupée. Et finalement, ce qui se parlait entre femmes et hommes, entre Français et immigrés, c'était souvent très petit. C'est-à-dire que ça, je crois que c'est aussi le fait tout simplement d'un énorme mouvement où on se sent autorisé à prendre la parole et on la prend sur des petits détails, minuscules éventuellement, mais qui évidemment vont dans le sens d'un mouvement beaucoup plus fort, bon, et général. Bon, ça c'est certain. Et à part ça, je me sens jamais finalement en position de maîtrise par rapport aux mots. Bon, j'essaye.
Ce texte, mai 68, le chaos peut être un chantier, est une conférence que vous avez donnée, que vous avez écrite aussi à la demande de Christian Laval pour un colloque, l'alternative du commun, au Centre international de Cerisy-Lassalle. C'était en septembre 2017, qui a été repris ensuite dans la salle de spectacle 104 à Paris. Mmh. Ce texte, vous l'avez pensé comme une grande conférence, mais avec ses interruptions. Mmh. Et on y retrouve dans ces interruptions des personnages qui sont présents déjà dans d'autres de vos textes, Leslie Kaplan. Cette idée de l'interruption, est-ce que ça n'a pas été aussi un des moments, un des temps forts de cette parole libérée de mai 68, qu'on retrouve dans Nuit debout, Nathalie Quintin, c'est-à-dire cette idée d'un dialogue qui est possible, en tout cas d'une conversation qui n'était pas formellement autorisé jusqu'ici. Mmh. Et là, on peut intervenir dans les mots de l'autre et dans la pensée de l'autre.
Oui, mais tout à fait. C'est-à-dire ce qui s'est passé très concrètement, c'est-à-dire Christian Laval m'a demandé d'écrire quelque chose. Et j'en ai parlé à des comédiennes metteuses en scène avec qui je travaille régulièrement, Frédéric Lollier et Lise Vigier du Théâtre des Lucioles. Et elles m'ont dit, mais ça serait vraiment très drôle si on venait interrompre cette conférence, parce que je leur avais demandé de venir aussi. Et l'idée de l'interruption correspond complètement, en effet, à au fond ce qui se passait en 68 et ce qui se passe à mon avis toujours quand il y a un mouvement, c'est-à-dire il y a des interruptions et ça favorise malgré tout ou au contraire justement le dialogue, c'est-à-dire le dialogue c'est toujours tout de même à la fois parler et demander à l'autre tu m'écoutes, est-ce que tu es bien là, est-ce que tu m'écoutes, et d'être interrompu éventuellement, eh bien ça relance justement ce dialogue et ce tu m'écoutes.
Extrait de mai 68, le chaos peut être un chantier. Votre livre, Leslie Kaplan, en mai 68, c'est l'absence de hiérarchie. Au contraire, c'est l'égalité, la liberté réciproque. La parole est partout, dans tous les milieux, chez tout le monde. Elle traverse tout, transgresse tout ce qui est déjà établi, toutes les conventions, y compris bien pensantes de gauche. Par exemple, le cliché de gauche sur le fils à papa. En mai 68, le fils à papa prend en stop dans sa voiture l'ouvrier en grève. Nathalie Quintane, on a souvent décrit, parlé de la place de la République sous Nuit Debout, comme une vaste agora. C'est aussi ça la particularité de ce lieu, un lieu d'échange, comme on n'en avait plus jusqu'ici.
Alors, oui, alors je voudrais un tout petit peu à peine rectifier, c'est que le livre raconte essentiellement les Nuits Debout dans une toute petite ville de province. Alors, il y a des passages, en effet, à Paris, Place de la République, mais qui sont très minoritaires dans le livre, et c'est cette attention à ce qui s'est passé en province qui mobilise la plupart des pages. Je suis d'ailleurs assez contente que pour cet anniversaire, on va dire, il y ait pas mal de livres d'historiens qui se sont préoccupés de ce que la manière dont ça s'était passé en province. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans la petite ville, toute petite ville, hein, on va dire 18 000 habitants en brassant large, en allant chercher les villages alentours où ça se passe. Évidemment, c'est à cette échelle-là, donc 30, 40 personnes, 50 personnes maximum sur la place centrale, la place du marché. Et en fait, c'est ces Nuits Debout-là que raconte le livre. Et c'est justement tous les empêchements à la parole, toutes les difficultés, tous les gestes, la moindre des choses pour essayer de se mettre à parler. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été finalement suffisamment nombreux pour mettre en place, par exemple, les gestes qu'il y avait à Nuit Debout, hein, de manière, vous savez, les gestes venus un petit peu des places espagnoles, là, qui permettaient de se comprendre sans avoir à parler. Nous, on pouvait se parler puisque, évidemment, on était si peu nombreux qu'on s'entendait. Enfin, c'est toutes ces petits décalages qui peuvent être, des fois, à la fois paralysants, amusants, mais très intéressant aussi, hein, parce qu'on est sans cesse dans une forme de démarrage, de reprise, comme un moteur qui essaye de, voilà, qui crachote au début. Et c'est vraiment comme le tout début d'un mouvement, on va dire le début de l'amorce du commencement d'une mini-révolution qui est là tout le temps en train d'essayer de se faire. Et c'est vraiment aux détails sensibles que s'intéresse le livre. Le passage à Paris, il y a trois passages au début où je raconte vraiment la manière dont ça, pour la première fois de ma vie, et j'ai 54 ans, j'ai senti qu'il y avait une intelligence commune qui naissait, sans qu'elle vienne de telle ou telle personne en particulier. Ça, je l'ai vécu. C'est pour ça que j'ai commencé ce livre, hein. C'est parce que c'était une expérience absolument nouvelle en ce qui me concerne, d'être assis avec tout le monde et de voir qu'une parole vraiment commune commençait à réfléchir comme ça. J'avais jamais vécu ça et je me suis dit ça, il faut quand même que je le raconte pour une raison très précise qui est que j'avais peur que très vite, on dise que ce n'était rien, qu'il ne s'était pas passé grand-chose et que ce n'était pas très intéressant. Et ça n'a pas manqué. Assez vite, en fait, les rumeurs sur ce qui se passait à Place de la République et ailleurs, c'était « Ouais, c'est des petits bobos, ils se jouent un petit peu. » Justement, ils se rejouent un peu mai 68, mais en tout petit. Donc c'était cette future annihilation, cette future négation qu'essaye de contrer le livre et que j'ai essayé de contrer presque dès le début. Au début, je pouvais pas écrire, c'était trop fort, mais à un moment, je me suis dit « Là, faut faire quelque chose, il faut noter ce qui se passe. »
Oui, vous parlez même d'un devoir de mémoire, presque du temps présent, quelque chose à pris de mars à juin, c'est indéniable, je m'en souviens. Si je tiens à signaler qu'il se passe en ce moment même quelque chose en France, à Paris, Place de la République, mais pas seulement, écrivez-vous, c'est que je crains que dans quelques mois ou dans quelques semaines, on dise qu'il ne s'est rien passé, y compris et surtout en France. Est-ce qu'il ne faut pas laisser autant le soin justement de juger de l'importance d'un événement, qu'elle recule pour juger aujourd'hui de ce qui fera l'histoire de demain, Leslie Kaplan ?
Oui, enfin, il me semble que trouver la bonne distance, c'est une des choses qu'on fait en écrivant. C'est-à-dire, l'écriture permet, enfin, vraiment, d'essayer de trouver comment se ressaisir d'un événement pour essayer de le garder à la fois dans ce qu'il a été et dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit en disant que j'essayais d'écrire par tous les côtés en même temps, en essayant de reprendre à ma façon ce que Cézanne dit de la peinture. Peindre par tous les côtés en même temps, c'est-à-dire s'adressant à la fois à l'intelligence, à la sensibilité, à la mémoire, etc. Et ça, une expérience est toujours pleine de ça, et je crois qu'il faut en effet essayer de l'attraper, mais qu'il faut aussi une certaine distance pour le faire.
La littérature, pour se réapproprier aussi la mémoire, vous dites, Nathalie Quintane, qu'entre deux, il y a eu une longue plage de temps amorphe entre 68 et aujourd'hui, une plage si longue qu'on en avait oublié qu'une plage historiquement amorphe ne prend place qu'entre deux périodes émeutières, sinon révolutionnaires, ou de sensibilité révolutionnaire. Ce petit quelque chose que vous évoquiez à l'instant, Nathalie Quintane, est-ce que vous pensez qu'il est quand même plus que le prémisse d'une période où cette sensibilité révolutionnaire a clairement été réveillée?
Oui, ah oui, ça conteste. Je suis pas historienne, ou surtout sur le temps présent, et je suis plutôt en immersion. Enfin, le livre se veut en immersion dans ce qui se passe, hein, dans une sorte d'atmosphère générale qui est en train de se resensibiliser en fait aux politiques, on va dire. Hein. Et il me semble que s'il y a un rôle, un tout petit rôle de la littérature, c'est peut-être de resensibiliser aussi à ça. Hein. Je crois que c'est une forme de, c'est comme si nos nerfs avaient été anesthésiés, notre pensée, notre sensibilité avait été anesthésiée. Et le fait de reprendre ça et de pas seulement en écrivant mais en y allant, en descendant, en descendant dans la rue en fait, en allant voir les gens, en étant partie de ce qui se passe, ça permet vraiment de remettre du sang un peu partout dans le corps, dans un corps qui était un petit peu endormi, qui était en pleine torpeur en fait depuis très longtemps. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, oui, il y a 2 ans, et en fait, je crois que ça s'est ouvert parce que la réponse du gouvernement, on va dire, de l'époque, hein, a été particulièrement vigoureuse. Et qu'il y a eu une telle... Le livre raconte ça aussi, hein, qu'il y a eu une telle répression. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a toutes ces discussions en ce moment sur... la police ne doit pas y aller trop fort parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut donner. C'est qu'il y a 2 ans, elle y est allée quand même très très fort. Alors, c'est pas eux qui prennent l'initiative, hein, évidemment. Il y a des ordres un peu plus haut. Et ça y est allé tellement fort que, évidemment, la réponse en face ne peut être que à la hauteur de cette violence-là. Et donc, il y a une espèce de... J'allais dire merci beaucoup à Valls, quoi, d'avoir été, évidemment c'est ironique, mais d'avoir été aussi fort dans la répression. Je ne compte plus compter un œil en moins, c'est l'œil crevé, évidemment, hein, par les flashballs. Il y en a eu plusieurs. Parce que c'est face à cette force-là de la réponse, hein, il n'y a plus de retenue, de la violence. Il y avait pas, on sentait pas ce que doit être la parole d'un gouvernement, c'est-à-dire jouer avec une forme de retenue de la violence. Normalement, c'est ce rôle-là, hein, qui doit se jouer de la part du ministère de l'Intérieur. Mais alors, tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés depuis des décennies, on va dire, je vais pas faire la liste, mais tout le monde s'en souvient, sont tellement pas du côté de la retenue que du coup, les choses se sont enflammées. Et nous sommes encore dans ce retour de flamme, on va dire.
Mais vous êtes aussi, vous vous interrogez aussi, Nathalie Quintane, sur cette France soumise qui pourrait être de retour avec cette belle formule qui en dit long, l'histoire n'est pas un toboggan. On s'interroge aujourd'hui sur cette filiation entre mai 68 et maintenant. La révolution est un art, écrivez-vous Leslie Caplan, la littérature comme refuge pour mai 68, là où peut-être la politique a échoué, voire baissé les bras. Écoutez ce qu'en dit le philosophe Jacques Rancière sur les vertus émancipatrices ou non de la littérature.
Il faut le penser aussi toujours dans des contextes. C'est-à-dire, pour moi, la littérature, c'est pas tout ce qui a été écrit depuis le commencement du monde. C'est-à-dire, je crois pas que la littérature, si on considère par ça le fait qu'il y ait des livres écrits, pas plus que l'art, n'est émancipateur en soi-même. Mais il y a des moments où des formes d'expression, effectivement, disent quelque chose qui se passe dans la société et révèlent des nouvelles possibilités qui s'offrent à tous, qui sont vécues par tous. Et effectivement, je pense que ce moment littéraire dont on parlait a été important parce qu'il a, bon, il a vraiment coïncidé avec tout d'un coup une espèce d'élargissement du champ même du possible. Et ça, donc, je crois que c'est pour moi quelque chose de très important et que j'ai essayé d'analyser. Bon, on pourrait l'analyser à d'autres moments pour d'autres arts. On peut penser au rôle qu'a eu le cinéma, par exemple.
Mai 68, écrivez-vous, Leslie Caplan nous a donné, Caplan, c'est si simple à dire, nous a donné quand même des outils pour penser ce qui se passe aujourd'hui, pour comprendre aussi le sens de la vie, ce qu'on a en commun, comprendre aussi nos désirs, en quoi
d'ailleurs, je peux reprendre le mot là évoqué, enfin dit plutôt par Jacques Rancière, c'est la question du possible. C'est-à-dire tout de même, les outils que nous donne mai 68, c'est déjà de dire, ben voilà, ça c'est possible puisque ça a existé. De même, après tout, la Révolution française a aussi montré ça. Bon, hein. C'est-à-dire qu'à prendre les mots sérieux, bon, ça veut dire que il y a d'autres ouvertures, enfin il y a des ouvertures, il y a des possibles. Et il me semble que dans la mesure où justement, ben, comme on a dit, c'était un vraiment gigantesque mouvement de parole, hein, une gigantesque façon de parler avec des gens qu'on ne connaissait pas, des inconnus, des gens avec qui on n'aurait jamais parlé, ben, vraiment les choses s'ouvraient d'une façon énorme. Et ça, c'est vrai qu'à Nuit Debout, on a évidemment retrouvé ça, autrement, différemment, etc. Mais ça, je pense que c'est vraiment la marque d'un mouvement et d'un bouleversement.
Une question posée par Nathalie Quintane dans Un œil en moins, qui vient de paraître chez POL, Leslie Kaplan. Si ça ne suffit plus, ce qu'on fait alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire les artistes? Qu'est-ce qu'on doit faire les écrivains? Qu'est-ce qu'on doit faire les profs? Qu'est-ce qu'on doit faire les classes moyennes? Et qu'est-ce qu'on doit faire les Français? Que lui répondriez-vous, Leslie Kaplan?
Bon, écoutez, je pense que déjà, essayer de vivre et de penser au maximum de soi-même, et c'est déjà énorme, parce que si on fait ça, on rencontre, il me semble, obligatoirement d'autres personnes qui sont aussi dans cet état de vouloir quelque chose qui est justement un peu en dehors de ce qui se passe d'habitude. Et comme a dit Blanchot d'ailleurs, la révolution, c'est quand l'ordinaire devient extraordinaire. Bon, ben ça, je crois que c'est une des façons de prendre les choses.
Et Nathalie Quintane, à cette question que vous avez soulevée, vous répondez, eh bien, sortir de chez soi, ce qui n'est pas ben très voilà. Différent de la réponse apportée par Leslie Kaplan. À vous, Nathalie Quintane, cette question soulevée par Leslie Kaplan. Et alors vient la question, tout ça, c'est fait dans les mots, paroles, dialogues, est-ce suffisant pour une révolution ?
Ça passe par les actes aussi, hein. C'est ce que dit Martin Buber, c'est qu'il y a quelque chose du possible qui se rend possible par l'acte. Mais il y a une zone où le possible est tout à fait actuel. Il y en a plusieurs, mais la plus connue en ce moment, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Là, on a du possible présent, en acte, en ce moment. Donc c'est pour ça que c'est assez important de se renseigner, éventuellement d'y aller. Et il y aura une grande soirée de lecture avec Leslie Kaplan, entre autres, qui aura lieu le mardi 29 mai à la Générale à Paris. Et je vous y invite tous, parce que là, on va parler de la ZAD et on va lire des textes.
Merci voilà. Beaucoup Nathalie Quintane. Rendez-vous est donc pris pour ceux qui le souhaiteraient. Un œil en moins vient de paraître chez POL. Merci Leslie Kaplan. Mai 68, le chaos peut être un chantier. Conférence interrompue. Votre ouvrage et ses conférences vient également de paraître chez le même éditeur. C'est la maison des écrivains et des écrivaines qui aiment déstructurer la langue et faire réfléchir par les mots. Merci beaucoup à toutes les deux.